Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, cette découverte atroce dans la ville de Grays, à l'est de Londres. 39 corps dans un camion. Le poids lourd venait de Bulgarie, le chauffeur est arrêté. On pense évidemment à des migrants, mais pas de confirmation à ce stade. La police ne donne aucun détail sur l'identité des 39. Vous avez entendu la météo, toujours 9 départements en alerte, pluie, inondation. L'équivalent de 2 mois de pluie tombée hier dans beaucoup de points de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et de l'Hérault en particulier. Les trains, les voitures, la circulation sur la côte est particulièrement difficile. Notre reporter Stéphane Iglesis entre Béziers et Narbonne tout à l'heure. Des mesures enfin pour les aidants, ces personnes qui soutiennent un proche malade, très âgé ou handicapé. Principale annonce ce matin, 200 000 solutions de répit supplémentaires. Des places dans des maisons pour souffler quelques jours ou un professionnel qui vient chez eux pour les aider un temps. La nouvelle équipe dirigeante du parti Les Républicains présentée ce matin. Bonjour Cécilia Arbona.
Bonjour.
Et un revenant.
François Baroin avait déserté le siège du parti depuis 2 ans. Il intègre le comité stratégique. Et si c'était un tremplin pour la présidentielle de 2022 ?
On verra cela. Dans ce journal encore, les armées turques et russes s'installent un peu plus dans le nord de la Syrie. Accord entre les deux pays hier. Les Kurdes, qui ne quitteraient pas la zone, seront sous un rouleau compresseur, menace Moscou. Expo Vinci au Louvre, J-1, le regard des journalistes étrangers. En France, comment sortir du glyphosate ? La SNCF y travaille, elle aussi. À 13h30, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel est le menu ?
On parle pollution et numérique, deux mots qu'on oublie souvent d'associer. Et pourtant, la dématérialisation nous fait totalement oublier la dimension énergivore de nos nouveaux outils. Je reçois Éric Vidalingue de l'ADEME qui milite pour une écologie numérique.
Vos questions au 01 45 24 7000. L'émission à 13h30. Avant cela, Mbappé de retour de blessure serait-il encore plus fort qu'avant ? Triplé hier soir en Ligue des Champions. Ses coéquipiers épatés.
Il doit amener sa pierre à l'édifice. Lui, pour le coup, c'est un rocher qui nous apporte ce soir. Mais c'est normal, il est dans le bon état d'esprit et ça va tous nous porter.
Football tout à l'heure et cinéma. Le conseil d'Eva Bétan, comme chaque mercredi. Nakash Toledano, le duo qui amuse et touche. Et de retour, le 13h. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
39 corps dans un camion, c'est la scène qui saisit d'effroi ce matin. 39 corps découverts la nuit dernière à Grays, dans la région de l'Essex, à l'est de Londres. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
On ne sait pas grand-chose hein, pour l'instant des 39 personnes ou du parcours du camion.
Non, la seule précision que donne la police, c'est le nombre de victimes. 39 personnes, dont un adolescent. Les enquêteurs cherchent à identifier les corps et à retracer l'itinéraire du camion jusqu'à son arrivée dans la zone industrielle de Grays la nuit dernière, à l'est de Londres, près de la Tamise. C'est un grand espace de transit qui donne accès à la capitale. Le véhicule serait parti de Bulgarie et serait entré sur le territoire britannique par l'ouest du pays, en passant samedi soir par le port de Holyhead, un point qui sert de passage pour les chauffeurs qui arrive d'Irlande. C'est d'ailleurs d'Irlande que vient le conducteur du camion. Il a 25 ans et a été mis en examen pour meurtre. Réaction de Boris Johnson. Le Premier ministre se dit horrifié. La ministre de l'Intérieur, Priti Patel, est choquée et triste. Et puis la députée Jackie Doyle Price, députée de la circonscription, parle, elle, directement de trafic d'êtres humains. Elle condamne un business ignoble et dangereux. Il n'y a pourtant, pour l'instant, aucune preuve que le camion transportait des migrants. Les responsables du syndicat des transports expliquent que s'il s'agit effectivement de transport de réfugiés venant d'Europe de l'Est, le camion aurait dû logiquement entrer par Douvres. Il a peut-être changé de route face au renforcement des contrôles à Calais et à Douvres.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres. Voilà ce que l'on peut dire donc pour l'instant de ces 39 corps découverts dans ce camion à Londres. Le chauffeur est originaire d'Irlande du Nord. Il a 25 ans. Il a été placé en garde à vue. Il est tombé des trombes d'eau, le vent a soufflé très fort, il y a des dégâts et la menace reste importante. Voilà le bilan des intempéries depuis hier dans le sud. Tous les départements en bordure de Méditerranée, des Pyrénées-Orientales au Var, restent en alerte orange, plus l'Aude, le Tarn, l'Aveyron et le Vaucluse. 1500 secouristes mobilisés dans les zones sinistrées, parmi les villes touchées, dans les Pyrénées-Orientales, Argelès-sur-Mer et Perpignan, dans l'Hérault, Vieux-Sens et Béziers, dans l'Aude, Sigean, Le Cat, Durban-Corbière et Narbonne. Aucun mort à déplorer pour l'instant. Bonjour Stéphane Iglesis.
Bonjour à vous et bonjour à tous.
Stéphane, vous êtes à Béziers, vous étiez ce matin à la gare de Narbonne, gros point noir, les transports sur le littoral.
Ah oui, parce que c'est difficile de se déplacer en voiture, mais c'est difficile aussi en train. En gare de Narbonne, c'est place au système D pour les voyageurs. Les trains ne s'arrêtent pas à Béziers et donc, en raison d'une inondation, ils se dirigent vers Narbonne. Cyril se creuse la tête.
route.
La situation actuellement à Narbonne est bloquée. Je viens de Toulouse et les trains sont bloqués un petit peu après en direction de Béziers. Donc actuellement, obligé de trouver une solution alternative pour me rendre à mon travail, à Montpellier, mais je crois que ça va être très compliqué. A priori, pour l'instant, aucun car de remplacement. De covoiturage, j'ai essayé, il n'y en a pas non plus.
Stéphane Iglesias, est-ce que vous êtes toujours en direct avec nous?
Je suis toujours en direct avec vous.
Alors, la suite du reportage.
Mathieu, lui, se demande comment aller à Béziers, d'autant que ces perturbations vont durer jusqu'à 18 heures.
En arrivée de Montpellier, on nous a supprimé l'arrêt sur Béziers, donc arrêt obligatoire sur Narbonne, et on attend un train pour remonter sur Béziers. Et suite aux intempéries, actuellement, aucun train ne circule entre Béziers et Narbonne.
Et justement, à Béziers, c'est le bas de la ville qui a été touché vers la rivière l'Orbe avec des infiltrations dans certaines maisons, des toits qui fuient. Et en remontant à mi-pente de la ville, le plus spectaculaire, c'est l'un des murs d'enceinte du lycée Henri IV qui s'est affaissé, emprisonnant quelques voitures au milieu des pierres. Des boutiques sont inondées aussi dans le quartier de la Treille à Béziers. Et à Villeneuve-les-Béziers, le canal du Midi a débordé et les pompiers ont dû procéder ce matin à 7 télitreuillages pour mettre des riverains en sécurité.
Stéphane Iglesias en direct de Béziers pour France Inter et les habitants sont tout particulièrement invités à respecter les consignes de prudence. On ne s'engage pas sur une route inondée, que ce soit à pied ou en voiture. On ne franchit pas un cours d'eau qu'on regarde évidemment de très près. Les cumuls de précipitations pourraient en amener certains à sortir de leur lit dans les heures à venir. De fortes vagues sont également redoutées, risque de vagues submersion. Et puis des intempéries également côté espagnol. Un homme a été retrouvé mort ce mercredi. 4 personnes sont portées disparues. En Catalogne, 25 000 foyers privés d'électricité dans la région espagnole. Également des glissements de terrain en Ligurie, en Italie. La circulation des trains est donc perturbée en Occitanie, à Béziers. En particulier, on le disait, perturbée aussi pour de toute autre raison en Champagne-Ardenne. Plus d'une semaine après l'accident qui a amené une partie des cheminots à faire jouer leur droit de retrait le week-end dernier. Ça coince toujours en Champagne-Ardenne. À propos des TER, la Cour des comptes publie aujourd'hui un rapport sur leur organisation au moment de l'ouverture à la concurrence. Ils ont coûté 8,5 milliards d'euros en 2017. C'est trop cher, trop de subventions pour une qualité de service insuffisante, estime la Cour des comptes. Au moins 8 millions de personnes, 11 millions même, disent les associations, aident un proche en perte d'autonomie, maladie, vieillesse, handicap. C'est ce qu'on appelle les aidants. C'est une tâche épuisante, psychologiquement, physiquement. Le gouvernement a présenté une série de mesures ce matin pour aider les aidants. Certaines mesures nouvelles, d'autres non. On détaille cela dans un instant. D'abord un témoignage. Un monsieur qui s'appelle Jo Malocher. Il a 80 ans. Il habite Saint-Étienne. Il a accompagné pendant 10 ans sa femme malade d'Alzheimer. Il ne réalisait même plus à quel point il était épuisé.
J'avais moi-même un certain déni. Surtout ne pas s'abandonner et à un moment accepter le placement. Et ce placement m'a été imposé en me disant, monsieur, vu votre état personnel, vous ne pouvez absolument pas la garder chez vous. J'avais fait des calculs. Si j'avais voulu prendre mon épouse chez moi avec le personnel suffisant de jour et de nuit, il m'en coûtait plus de 10 000 euros par mois. Et ce qui aurait pu se passer, on est épuisé physiquement et psychologiquement, on était complètement épuisé. Et à un moment, on lâche prise, on abandonne et on part avant le malade, ce qui est une catastrophe parce que le malade peut très souvent partir tout de suite après son aidant.
Alors, quelles mesures pour aider ces aidants? Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, était ce matin l'invitée de France Inter. Principale réponse nouvelle, une plateforme de répit. On s'appuie sur les solutions qui existent déjà, comme les maisons Alzheimer. Sophie Cluzel, ce matin sur Inter.
Nous allons doubler les places de plateforme pour pouvoir avoir du répit, quel qu'il soit, de pouvoir prendre un week-end. Ces personnes, elles nous disent, moi je ne peux plus prendre de vacances, je ne peux plus souffler. Donc cette plateforme de répit, elle va tout simplement pouvoir donner les solutions d'accueil. L'accueil temporaire, par exemple. C'est-à-dire que cette personne va pouvoir être accueillie dans un établissement qui est bienveillant, qui est professionnel, pour permettre à cette proche aidant d'aller prendre son week-end. Et puis il peut y avoir aussi du relayage. Cette personne aidée, elle reste tranquillement chez elle. Nous ne lui demandons pas de se déplacer. Au contraire, il va y avoir un professionnel qui va pouvoir s'installer pendant 4 jours, 5 jours, 6 jours. C'est une solution déjà expérimentée, puisque nous avons 54 départements qui depuis 2 ans le pratiquent. Donc nous partons pas de rien, nous avons pu évaluer les enjeux financiers.
Et cela représente de 105 millions d'euros entre 2020 et 2022. Autre mesure nouvelle ou déjà connue, la mise en place d'un numéro unique d'information. Les entreprises sont incitées à assouplir les conditions de travail des aidants. Discussion en cours avec le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye pour que l'aidant soit pris en compte dans les droits à la retraite. Et puis cette indemnité, ce congé pour les proches aidants qui pourra aller jusqu'à 3 mois sur l'ensemble de la carrière, les entreprises ne peuvent pas le refuser. Indemnité de 43 euros par jour pour une personne en couple, 52 pour une personne isolée. Alors qu'en disent les associations? Écoutez Florence Leduc, la présidente de l'Association française des aidants.
Le congé de proche aidant et son indemnisation pour les personnes malades, âgées, handicapées qui ont besoin de beaucoup d'aide et qui ont besoin d'une présence à un moment donné, on va dire que c'est insuffisant. Mais en même temps, tous les aidants n'ont pas besoin de tout. Il y a des choses extrêmement positives. Je pense qu'aujourd'hui, on a compris qu'il fallait absolument reconnaître les proches aidants pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font. Le répit, il est fondamental. Ce que disent les aidants, c'est « j'ai besoin de souffler », histoire de dire qu'on ne respire même pas quand on est dans une certaine difficulté, dans sa relation d'aide, de fatigue, de stress. On a aujourd'hui des droits qui ne sont pas utilisés, donc on finit par dire que les aidants n'en ont pas besoin, mais c'est la difficulté de pouvoir faire valoir ces droits avec ce que la ministre a appelé ce matin de la paperasserie. Aujourd'hui, j'ai entendu que les dispositions pour les aidants qui étaient annoncées ce matin, ce sont des dispositions pour tous les aidants, quelles que soient les personnes qu'ils accompagnent. Donc c'est un point extrêmement positif en disant qu'il n'y aura plus ou de moins en moins de trous dans la raquette. L'association que je préside est née en 2003. Les aidants, c'est invisible, parlons-en. Ce matin, je les ai entendus dans la bouche de la ministre. Ça m'a fait plaisir. Allons-y.
Voilà pour ce dossier consacré aux aidants, préparé par Claire Chaudière, Laurent Kramer et Élie Abergel à France Bleu Saint-Étienne-Loire. Et l'interview de Sophie Cluzel est à réécouter sur franceinter.fr. La France sortira-t-elle du glyphosate d'ici à 5 ans? C'est l'horizon. Mais lorsqu'on parle de ne plus utiliser cet herbicide, il y a un acteur très important auquel on ne pense pas toujours. C'est la SNCF, utilisateur majeur du produit pour entretenir ses voies ferrées. Et bien depuis quelques mois, l'entreprise teste d'autres techniques de désherbage. Exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, à Brévent, près de Dôle. Reportage Marianne Naquet.
Sur le chantier, ça sent le lisier. Pas d'herbe verte sur les voies ferrées, mais une sorte de matière cotonneuse bleue et verte. Ça s'appelle le Natura Mulch, explique son inventeur, Serge Ostrowski.
Dedans, vous avez de la cellulose, en fait, essentiellement, donc type pâte à papier. Hein. Donc des composés d'algues, notamment, aussi. Ça, c'est notre base, et dans laquelle on a mis 16 mélanges d'espèces différentes.
Les plantes, à base de trèfle sauvage et de pâquerettes, vont absorber les mauvaises herbes et pousser au milieu des rails. Le but, c'est qu'elles ne gênent pas le passage des trains, précise Muriel Hennig de SNCF Réseau.
Il faut que la hauteur elle soit limitée à 10 cm pour avoir une bonne visualisation au niveau du rail et de tous les éléments de la voie, pour éviter que les racines modifient la géométrie de la voie. Un critère qui est assez fort aussi, c'est la résistance aux contraintes, donc aux contraintes que ce soit piétinement, passage des trains ou fauche.
Elles sont ultra résistantes et en plus c'est facile à semer, il faut juste bien mélanger. François vient de finir une des voies, pour ça il a utilisé une machine, l'hydromulcheur.
C'est une cuve avec un malaxeur et une pompe qui permet la projection du mélange au niveau du sol. L'élément très important, c'est d'avoir de l'eau en quantité.
Plus besoin de glyphosate. Pour le moment, la SNCF teste cette technique seulement sur les voies où passent des trains de marchandises. L'expérimentation doit durer plusieurs années.
Ce matin, dans le sud, dans le Var, à Saint-Raphaël, un homme retranché pendant 4 heures dans le musée archéologique. Ses motivations ne sont pas claires. Les policiers ont fini par l'arrêter. Un nouveau patron, nouvelle direction au sein du parti de droite, les Républicains. 9 jours après son élection, Christian Jacob a dévoilé aujourd'hui l'équipe dont il va s'entourer. Bonjour Cécilia Arbonin.
Bonjour.
On vous a déjà entendu dans les titres. Le fait marquant, c'est le retour de François Baroin, plus ou moins en retrait de la vie partisane de LR depuis 2 ans. Il intègre le comité stratégique François Baroin et il est en bonne position pour éventuellement préparer une candidature à l'Élysée en 2022.
Oui, parce que Baroin coche toutes les cases pour rebâtir cette droite en partant de la base, c'est-à-dire celle des territoires, à la tête de la ville de Troyes depuis 24 ans, président de l'Association des maires de France. Il présente des qualités d'ancrage local, de longévité, de proximité, et ce sera utile pour préparer les 3 scrutins locaux qui vont s'enchaîner, les élections municipales, départementales et régionales. Mais déjà, au sein du parti, on voit plus loin. Ce retour s'accompagne d'un frémissement enthousiaste. Écoutez, Alexandre Vincendet, il est maire de Rieux-la-Pape, près de Lyon, et il a été nommé tout à l'heure secrétaire général adjoint pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
C'est déjà en tout cas un signe très fort de montrer qu'un des talents de notre famille politique et aussi un des espoirs de notre famille politique revient dans la maison prendre des responsabilités importantes. Le fait que François Baroin soit là, c'est pas le signe qu'il sera candidat en 2022, c'est le signe en tout cas qu'il a conscience aujourd'hui de l'enjeu qui est de recréer une alternative. Et si jamais il fait partie de ceux qui souhaitent se porter candidat, je pense qu'il fait partie en tout cas de nos meilleurs espoirs, ça c'est certain.
Face à deux candidats potentiels de la droite qui ont quitté les Républicains, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, Baroin, le Chiraquien, serait effectivement un prétendant logique, mais en aura-t-il réellement envie? Difficile de sonder son désir. Un sénateur dit de lui que les deux drames de sa vie, les décès accidentels de sa sœur et de son père au milieu des années 80, le hantent toujours, et qu'avec le temps, poursuit le parlementaire, François a pris de la distance et s'est recentré sur sa vie personnelle.
Et dans ce nouvel organigramme, le numéro 2 des LR, c'est Guillaume Pelletier, plutôt proche de Nicolas Sarkozy, secrétaire général, c'est un des jeunes qui monte au sein du parti, le député du Lot, Aurélien Pradier.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Et les gagnants de la dernière phase en date de la guerre en Syrie sont le Turc Erdogan et le Russe Poutine qui ont trouvé un accord hier. La Turquie, qui avait lancé l'offensive dans le nord, a rempli ses buts de guerre, en tout cas sur le papier. Les Kurdes, qu'elle considère comme des terroristes, sont chassés du nord. Une zone dite de sécurité est créée. La Turquie aimerait y installer une partie des 3,5 millions de réfugiés de Syrie qui vivent chez elle. Deuxième vainqueur, la Russie, qui met un peu plus le pied en Syrie. Istanbul et Moscou prennent le contrôle en commun de cette région. Bonjour Eric Biégalin.
Bonjour Bruno.
Eric, en direct de la frontière Turquie-Syrie avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Alors il reste à appliquer cet accord. Il y a beaucoup de questions. Je vous donne les deux premières. Est-ce que les Kurdes vont bien évacuer la zone? Et puis que vont devenir les centaines de milliers de personnes qui ont fui les bombes depuis le 9 octobre?
Alors pour les Kurdes, ils ne se sont pas encore prononcés. Il est assez probable qu'ils évacueront effectivement la zone, peut-être un petit peu lentement. On leur a donné 6 jours, un peu plus de 6 jours, 150 heures pour le faire. Mais ils devraient pouvoir mettre un petit peu plus de temps, tout simplement en le faisant discrètement, en changeant d'uniforme, en laissant leur fusil à la maison. Et alors l'autre inconnu de ce protocole d'accord conclu à Sochi, c'est bien ce retour des réfugiés. Alors il y est fait mention d'un retour des réfugiés dans cet accord, mais en termes parfaitement vagues. Et puis, techniquement parlant, les quelques 2 à 300 000 Kurdes qui ont fui les zones attaquées par la Turquie sont partis vers le sud, vers la ville d'Assaké, par exemple, en Syrie, ce qui fait d'eux des personnes déplacées et non des réfugiés. Autrement dit, leur retour n'est pas explicitement mentionné par l'accord. Ils ne sont d'ailleurs probablement pas les bienvenus dans cette nouvelle zone de sécurité, désormais contrôlée par la Turquie en Syrie. D'autant moins les bienvenus, sans doute, que la Turquie a annoncé vouloir y envoyer dans cette zone ses propres réfugiés syriens, ceux qui se trouve actuellement sur son sol, vous l'avez dit, ils sont plus de 3 millions et demi.
Et dans ce nord Syrie, que devient la ville symbole de Kobané que les Kurdes avaient arrachée de haute lutte à l'État islamique, Eric?
Alors c'est l'autre inconnu majeur de cet accord. A priori, les forces kurdes devraient aussi évacuer la zone et être remplacées par des unités du régime syrien, comme partout ailleurs sur la zone frontière. Et à vrai dire, les troupes du régime de Bachar al-Assad ont été invitées par les Kurdes eux-mêmes à prendre position à Kobané déjà, ce qui est chose faite en fait depuis vendredi dernier. Mais on a quand même bien du mal à imaginer que les Kurdes évacueront la ville symbole de leur résistance face à l'État islamique en 2014-2015. Alors on parle d'une solution de compromis qui pourrait être par exemple que les Kurdes fondent leurs unités dans l'armée syrienne, ce qui les rendrait beaucoup moins visibles, tout en leur permettant de rester sur place.
Eric, j'ai cité deux vainqueurs en introduction, le Turc Erdogan, le Russe Poutine, on pourrait en citer un troisième, le Syrien Bachar al-Assad.
Ah oui, c'est même le grand gagnant de cet accord de Sochi, incontestablement. Parce que si les termes de l'accord sont effectivement respectés, les milices kurdes, qui doivent partir à partir de ce mercredi, évacuer toutes les positions tenues sur la frontière, seront remplacées par des troupes de Bachar al-Assad. Alors cela veut dire aussi que les seules véritables agglomérations de ce nord-est syrien, autrement dit la plupart des villes, seront passeront sous contrôle en fait du régime de Bachar al-Assad, un régime qui récupère donc ainsi la quasi-totalité du nord syrien sans avoir eu à tirer le moindre coup de fusil.
Eric Biégalin en direct de la frontière entre Turquie et Syrie avec Gilles Gallinaro pour France Inter dans la série La Russie étend son influence. Sommet Russie-Afrique aujourd'hui sur les bords de la mer Noire. C'est le premier du genre. Une étape de plus en Tunisie, le seul pays où le printemps arabe n'est pas tourné à l'hiver. Le deuxième président élu démocratiquement depuis la révolution, Kais Saied, prête serment aujourd'hui. Cette campagne présidentielle très chaotique a eu au moins un mérite, libérer un peu plus la parole des femmes en Tunisie. Dans Dans l'élan du mouvement MeToo, beaucoup de Tunisiennes harcelées, agressées sont sorties du silence. Maureen Bercier, d'ailleurs, comment dit-on MeToo en arabe ?
Hashtag NAZ, la traduction, moi aussi, en arabe. Si les voix se libèrent sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'une lycéenne vient de dénoncer un homme qui, selon elle, se masturbait devant son établissement scolaire. Sonia Benmiled, membre de l'association Voix des Femmes.
Elle a eu le courage de dénoncer, le bon réflexe de prendre des photos, et ce genre de courage peut inspirer d'autres personnes à faire la même chose.
En tous les cas, cette jeune femme a déjà donné le courage à des centaines d'autres de raconter sur Internet, comme Zoé, 18 ans, qui se rappelle. Le chauffeur de taxi me touche les cuisses, les mains, le visage. Je pleurais en lui demandant d'arrêter. Ou Selma, qui écrit « À 15 ans, j'ai commencé à prendre un couteau dans mon sac avant de prendre le bus pour le lycée, pour tuer le prochain qui allait me toucher. À 16 ans, je me suis détestée de ne jamais avoir osé sortir mon couteau et j'ai fait une dépression. » Selon plusieurs études, plus de la moitié des femmes sont victimes de harcèlement ou de violences sexuelles dans les espaces publics. La Tunisie dispose pourtant d'un arsenal législatif modèle contre la violence faite aux femmes. Le problème ?
La loi n'est pas appliquée comme il le faudrait.
La société civile affirme qu'elle ne relâchera pas la pression sur cette nouvelle classe politique qui s'apprête à entrer en fonction. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
En Grande-Bretagne, le dernier épisode de la saga Brexit pourrait s'appeler un peu oui, mais peut-être non. Les députés à Londres ont approuvé hier le principe de l'accord de sortie trouvé avec l'Europe, mais ils veulent prendre le temps d'examiner le texte. Alors, est-ce qu'il y aura Brexit d'ici au 31 octobre, comme le veut et le reveut le Premier ministre Boris Johnson ? Voici l'avis du négociateur européen, Michel Barnier.
C'est important qu'il y ait eu pour la première fois, s'agissant du Brexit, du côté de la Chambre des communes, un vote positif et non pas seulement, comme on a vu depuis 3 ans, des votes négatifs. Donc maintenant, ce n'est pas la fin de l'histoire. Le processus démocratique est en route du côté de Londres et du côté de Strasbourg aussi. La demande a déjà été faite par M. Johnson d'une prolongation. Les dirigeants européens vont devoir se consulter. C'est ce que fait M. Tusk en ce moment pour décider d'une réponse. Mais actuellement, nous sommes amenés à devoir travailler sur un délai qui va au-delà du 31 octobre, donc probablement au moins un délai technique.
Voilà pour les propos de Michel Barnier ce matin. Le compte à rebours continue, J-1 avant l'ouverture au public de l'exposition Vinci au Louvre. Témoin de l'engouement, les très nombreux journalistes étrangers déjà présents, l'exposition leur était ouverte hier, Isabelle Pasquier.
On sent Léonard qui nous appartient nous tous, on n'est pas jaloux, on est fiers.
Même pas jaloux les Italiens, Francesca est une journaliste romaine. Elle est fière de voir l'homme de Vitruve jouer les stars devant les journalistes du monde entier. Caméra, appareil photo, devant la Sainte-Anne, le Saint-Jean-Baptiste, la Vierge au Rocher. Jamais le musée du Louvre n'a vu débarquer autant de journalistes étrangers. Les yeux qui brillent, Sophie Grange, sous-directrice communication du Louvre.
On a reçu 400 journalistes de presse écrite et de radio et au moins entre 35 et 40 journalistes de télévision de tous les pays, des Chinois, des Ukrainiens, des Britanniques, des Allemands, bien sûr des Italiens. C'est-à-dire que certainement les Brésiliens, les Chinois, peut-être ne viendront pas voir cette exposition, mais ils en auront entendu parler.
Devant des dessins d'astronomie prêtés par Bill Gates, des coupes de crâne prêtées par la reine d'Angleterre, Wai Jin, une journaliste d'un magazine de Singapour, n'en croit pas ses yeux.
J'aime l'exposition, on voit tous ces manuscrits que je n'avais jamais vus et toutes ces études. C'est incroyable, c'est impressionnant.
Et la conclusion revient à Assomption, une journaliste espagnole.
Découvrir la Gioconda en 3D, j'ai trouvé très amusant. Leonardo, il aurait bien aimé être là en 3D.
Et l'un des deux conservateurs de cette exposition sera l'invité du journal de 13h. Demain, cette expo hors norme dans les coulisses de l'Expo Vinci, c'est aussi un podcast de France Inter. Le podcast Poursuite que vous pouvez télécharger sur les plateformes ou sur franceinter.fr. Le PSG sera-t-il aussi fort au printemps, au moment des matchs décisifs en Ligue des Champions de football? En tout cas, les Parisiens sont brillants depuis le début des phases de poule. 3 matchs, une 3e victoire hier à Bruges. Avec la manière, 5-0, triplé de Kylian Mbappé. De retour de blessure, il brille à nouveau sur le terrain et devant les caméras de télévision, Cédric Guillou.
Kylian Mbappé a écrit l'histoire, une fois de plus, en étant le premier joueur depuis 2008 à entrer en jeu et à marquer à 3 reprises en Ligue des Champions. 3 buts, auxquels on peut ajouter une passe décisive, le tout en seulement 31 minutes. La pépite du foot français voulait frapper fort, il l'a dit à nos confrères d'RMC Sport.
Ça fait 2 mois que j'ai pas pu jouer un match de foot.
C'était très douloureux. Maintenant, voilà, j'ai eu la chance de revenir. Et bien sûr que voilà, je veux jouer tous les matchs, je veux reprendre le rythme que j'avais avant et remettre des buts.
La performance d'Mbappé a été saluée par le coach de Bruges, Philippe Clément.
Oui, c'est un des plus grands talents en Europe, du monde. C'est clair, c'est pour ça que toutes les équipes en Europe sont intéressées de lui.
Kylian Mbappé est au-dessus du lot, c'est le sentiment du défenseur du PSG, Abdou Diallo.
Il doit amener sa pierre à l'édifice. Lui, pour le coup, c'est un rocher qu'il nous apporte ce soir. Mais c'est normal, il est dans le bon état d'esprit et ça va tous nous porter.
En 27 matchs de Ligue des Champions dans sa carrière, Mbappé a été impliqué sur 25 buts, 17 réalisations et 8 passes décisives. À bientôt 21 ans, c'est tout simplement bluffant. Bruges, Cédric Guillou, France Inter.
Ce soir en Ligue des Champions, Benfica, Lisbonne, Lyon et Lille, Valence. Bonjour Eva Bettange.
Bonjour.
Le conseil cinéma du mercredi, quel plaisir renouvelé. Olivier Nakache et Eric Toledano sont de retour, ceux qui avaient fait Intouchables et Le Sens de la Fête. Le film s'appelle Hors Normes cette semaine. Vous dites ils ont quelque chose de spécifique, il y a une alchimie qu'ils ont trouvée.
Écoutez, je ne sais pas comment dire ça. Ils ont inventé une manière d'être drôle et d'être bon à la fois. Bon, c'est-à-dire au sens bonté du terme. Mais non, ce n'est pas un mot ringard. Vous pouvez appeler ça du respect des autres, si vous voulez. Mais il y a une chose qui est que leur film touche d'une manière singulière. Peut-être parce que pour eux, c'est naturel. C'est pas compliqué. C'est pas la peine d'écrire une thèse là-dessus. Et c'est ça qui leur permet de toucher à des sujets, entre guillemets, infaisables. De faire se rencontrer des gens de tous les milieux et aussi de tous les états de santé. Prenez Intouchables. Si on prend Le Sens de la Fête, oui. C'était un film une comédie plus classique, mais il y avait ces personnages des serveurs sri-lankais
oui.
Et qui étaient formidables. Peut-être qu'ils étaient sans papier, mais au fond, c'est eux qui apportaient une humanité fantastique au film. Et donc, hors norme, on y arrive. Comme pour Intouchables, il part d'une histoire vraie. Et sur le papier, c'est un sujet archi-délicat, j'ai envie de dire miné. Autisme, jeune des quartiers, juif et arabe. Un éducateur crée une petite structure semi-clandestine qui récupère des autistes adultes faute de place en institution. Et par ailleurs, un autre éducateur forme des jeunes en parcours de réinsertion. Et donc l'idée, c'est que les deuxièmes vont s'occuper des premiers. L'un des éducateurs, joué par Vincent Cassel, est juif, mais il se trouve que dans la vie, c'est vrai, il l'est. Et l'autre, interprété par Reda Kateb, est arabe. Mais l'un et l'autre n'en font pas un plat et les réalisateurs n'en font pas un plat. Je crois que le secret, il est là. Ils n'en font pas un
c'est
plat.
C'est pas lourdingue.
Non, mais surtout, c'est naturel. Ça fait partie de leur identité. Ce qui est important, c'est ce qu'ils font ensemble. C'est pas à toi. De même que les aidants, les soignants, les autistes ne sont pas vus en catégorie. Ils sont vus normalement. Ils sont là. Ils ont ce rapport naturel aux autres. Et qui est, le respect, il est dans cela. Dans le regard qui est posé. Dans la juste distance. Et c'est ça qui fait la particularité de leur film et de celui-ci en particulier, avec en plus, il faut le dire, le sens du rythme, le sens de la comédie. Et dès lors qu'ils n'ont pas de problème, tout passe naturellement, le rire peut passer. Pour une fois, il y a un côté presque dénonciation. C'est-à-dire, oui, le fait qu'il n'y a pas de structure pour les autistes adultes est un vrai problème. Il faut espérer aussi que le fait qu'ils aient un accès au grand public aura un impact. Et la bonté, ce n'est pas un gros mot finalement.
Et ça s'appelle Hors Normes, Olivier Nakache, Eric Toledano. Il y a aussi le Ken Loach qui sort. On peut réécouter votre interview avec Fabienne Sintès, Ken Loach, hier sur franceinter.fr.